Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les acteurs et participants de cette édition 2024 du Vintage Moto Show qui s'est déroulé dimanche dernier à Ouescal. On commence avec le Cayman qui fête ses 30 ans cette année. Toute l'actu et le calendrier du club avec Louis-Guy Valentin, le secrétaire de l'association. La suite du menu. Antonio Pereira nous emmène en balade au nord du Portugal, dans la région de Minho. Norton bientôt de retour sur les routes de France et de Navarre. Et toute dernière info avec Denis Bourguel, un grand passionné de moto anglaise. Et pour terminer, l'acteur principal de cette journée, Steve Perlinski, qui participera à l'Africa Eco Race en 2025, deux séquences radio qui ont été enregistrées le mois dernier dans les studios de Campus Lille. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite. Nous sommes au Vintage Moto Show et je suis avec Louis-Guy Valentin. Bonjour Louis-Guy. Alors, j'ai toujours un problème avec ton prénom et ton nom.
Oui, mon nom c'est Valentin.
C'est Valentin.
C'est juste.
Ouais. C'est juste, ouais.
Et mon prénom c'est Louis-Guy.
C'est Louis-Guy.
C'est juste.
Ils n'ont pas fait simple tes parents. Voilà. Et tu es le secrétaire du Cayman. Je peux dire ça, quand même,
secrétaire. Tout à fait.
Et donc, tu veux nous parler de l'association parce que le Caillement fête ses 30 ans cette année.
Voilà.
En 2024.
Oui, tout à fait. Le Caillement est issu...
Chronique Moto.
En 94, Chronique Moto avait vu le jour dans les fins des années 80.
Il faut revenir dans le détail quand même. Chronique Moto, c'était une revue qui était éditée ici dans la région du Nord.
Justement, oui. J'y viens. Elle avait vu le jour dans la fin des années 80. Et Chronique Moto, c'était tout un groupe de potes de la région qui faisaient de la moto. Alain Delfly...
Qui est le président du Caïman.
Qui est le président du Caïman depuis le départ d'ailleurs, puisqu'on fête les 30 ans du club, mais on fête aussi les 30 ans de présidence du club.
C'est incroyable.
Ah ouais, il est indétrônable.
Vous êtes sûr qu'il y a une démocratie dans le club?
C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de remplaçant. Donc,
c'est ça, oui.
À l'époque, il était documentaliste dans le journal, dans le magazine. Il est arrivé un jour où le magazine est là. Il a pris un petit peu la flotte. Ils ont dû déposer le bilan. Ouais. Des copains se sont réunis et ils ont créé le Caïman.
Le Caïman, c'est un acronyme, il faut dire ce que c'est, le Caïman.
Oui, tout à fait.
C'est un cercle.
C'est un cercle des amateurs inconditionnels, des amateurs de motos anciennes.
Voilà.
ça ne s'invente pas.
Je préfère que tu le dises.
Ça ne s'invente pas. Ouais. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, le Caïman a vécu avec des périodes de grosses activités comme certains salons que j'ai pas connus moi.
À l'EZN aussi.
Et puis le circuit des.
À l'EZN, les premières démonstrations de moto ancienne.
Ouais, tout à fait.
C'était à l'EZN, je me souviens. Hein.
Et puis,
il y a plus de 20 ans. 20 ans.
Ouais, ouais. Et puis après, il y a eu Croix-en-Ternois. Moi, je suis arrivé en 2011 au club. C'était encore Croix-en-Ternois qui était occupé par le Caïman, mais il y avait eu quelques problèmes. Et quelques années après, on a donc coupé les ponts avec l'organisation du circuit, c'est-à-dire certains membres du Caïman qui s'occupaient de ça et qui sont partis avec cette organisation qui fait qu'elle continue toujours, puisque maintenant c'est le motoclub de Audomarois qui s'en occupe. Et puis voilà. Donc nous, ça nous arrange très bien de plus devoir s'occuper de ça, parce que c'était source d'ennui fiscalement à l'époque, avant mon arrivée. Et donc ils ont connu un trou noir, mais ils ont trouvé le fond et ils ont se remonté à la surface. Et le club n'est pas mort. Et le club, quoi que certains en ont dit à une époque, le club est bien reparti. Et maintenant, on est un club d'une quarantaine de membres. Ça tient, il y en a qui partent, il y en a qui viennent. On arrive toujours à une quarantaine de membres. Et avec un fichier de 400 sympathisants à qui je communique par mail. Dans ces sympathisants, il y en a qui viennent au 15 août régulièrement, il y en a d'autres qui viennent une fois de temps en temps.
Ça, c'est le programme du Caïman, alors. On va en parler après.
C'est les choses qui découlent de ce fichier, quoi.
Oui, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites au Caïman? Vous faites cette fameuse balade du 15 août. Vous faites aussi le bus pour aller à cette bourse à Kempton Park au mois de mai.
Voilà.
Mais là, m'as dit hors micro que malheureusement, c'était annulé.
On avait deux voyages principaux dans l'année. Quelquefois, on a fait aussi le musée Sammy Miller en plus, qu'on refera peut-être un jour, s'il y a des amateurs. Donc au mois de mai, on allait régulièrement à Kempton Park avec un bus. Vers le 20 novembre, on allait au Salon Moto Légende. Au départ, moi, je l'ai connu à Vincennes.
Oui.
Et puis donc, cette année, il a changé d'adresse. C'était les deux voyages qu'on faisait principalement. Il y a eu le Covid. Suite au Covid, on a relancé Kempton Park. Ça s'est bien passé, je crois, la première fois, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a eu le Brexit. Et c'est le Brexit qui a tout foutu par terre. Parce que financièrement, Il y a beaucoup de...
On n'a pas de bol, nous, les moteurs. Hein, Covid, Brexit.
Il y a beaucoup de sympathisants motards qui venaient dans ce bus, mais qui n'ont pas accepté de devoir payer un passeport pour venir là-bas à Cape Town.
C'est la nouvelle condition maintenant pour rentrer en Angleterre.
Hein, voilà, tout à fait.
Il faut un passeport.
Et pour celui qui doit acheter un passeport pour un voyage, ouais. C'est pas terrible, quoi. Et donc, c'est ça, le résultat. L'année dernière, on a lancé j'ai lancé l'invitation pour aller à Cape Town dans le temps normal. Et on a eu une vingtaine d'inscriptions. Donc là, c'était vraiment dans le temps normal. Et cette année, j'ai dit, on va s'y prendre beaucoup plus tôt. Et on va prendre des préinscriptions à partir du mois de janvier.
Oui, parce que pour faire un passeport, il faut du temps.
Voilà. Donc, résultat, on a eu 11 préinscriptions.
Voilà. Et donc, pour remplir un bus, c'est pas possible.
Ah non, un bus ouais. c'est 50 minimum. Alors, le deuxième problème qui est arrivé après, mais ça, c'était de toute manière plus un problème, puisqu'on le faisait pas. C'est quand on a demandé le devis au transporteur, c'est l'augmentation du prix par le Eurotunnel, plus l'augmentation du prix du transporteur. Ça faisait, les deux cumulés, ça faisait plus 96%. Donc c'était énorme. C'était énorme. Mais comme on n'avait pas les voyageurs, il n'y a personne qui a... Donc le résultat des courses, c'est tout.
Donc finalement, le bus, c'est terminé.
Alors
cette,
le bus...
Cette balade à Cape Town Park au mois de mai, là.
Le bus pour Cape Town, c'est terminé. On a quelques potes qui vont... On va faire un voyage en voiture. Avec ma voiture, on est à 5 dedans. Voilà. C'est tout.
Après, vous avez cette balade du 15 août, là.
Alors,
que vous faites depuis des années.
On a la balade, la traditionnelle balade du 15 août, qu'on fait en partance de Merkeghem, le terrain qu'on a là-bas à Merkeghem, à côté de Bolzen. Régulièrement en partance de là. Mais cette année, ça sera ailleurs. C'est-à-dire que comme c'est une balade d'anniversaire, on va marquer le coup et on va essayer de faire quelque chose de mieux que d'habitude. Quoi. On va partir d'un endroit qui est encore pas divulgué et retour à cet endroit-là pour avoir le repas.
Vous faites du suspense.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Très bien, après on peut vous retrouver, je suppose, à Dijon aussi, hein, le Caïman.
Alors ça c'est avant Dijon.
Ouais, c'est avant Dijon, ouais, c'est au mois de mai. Mais non, on peut vous retrouver dans les salons comme aujourd'hui ici
voilà.
À Wascal ou à Vintage Moto Show.
Voilà, hein. On est là, on sera vers le 20 avril, par là on sera à Guine. Ouais. Il y a une exposition à Guine. Et comme c'est un club qui essaye de se dépatouiller, qui essaye de faire des choses, on les accompagne. Au mois de mai, c'est Dijon, ça c'est, on y va tous les ans. Hein. Après, fin avril, le quatrième dimanche donc, du mois d'avril.
Oui, vous avez les réunions mensuelles.
Non, le quatrième dimanche du mois d'avril, ce sont les réunions, les rencontres informelles. Ouais. Et au mois d'avril, c'est la journée de la FFVE. Donc cette année, on redémarre nos rencontres informelles, on les redémarre. Donc en avril. Et c'est le quatrième dimanche, donc c'est la FFVE en même temps. Ça sera devant le Tour du Monde à Bolzen.
À Bolzen.
Voilà. Oui. Ensuite, donc là, on accueillera tout véhicule ancien, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un vélo, ça peut être un tracteur, ça peut être une voiture, un camion.
Alors moi, je suis auditeur, je suis jeune, j'ai 25 ans. J'ai une moto sportive. Est-ce que je peux venir voir au Caïman? Est-ce que éventuellement, je peux venir vous dire bonjour?
Ah, venir dire et bonjour,
oui, oui.
On est pas sectaire.
Vous acceptez les jeunes avec des motos qui ne sont pas forcément très vieilles?
C'est-à-dire que tout le monde peut venir prendre la température d'un club de vieux motards amateurs de vieilles motos. Et ensuite, dans les jeunes, vous avez des jeunes qui vont s'intéresser à des néo-rétro. Il y a quand même une clientèle... De jeunes qui se penchent sur les Royal Enfield, par exemple.
Oui.
Les Royal Enfield, ça reste une catégorie. Mais il y a des jeunes qui en ont.
Ah ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre après?
Ce qu'on peut dire d'autre, dans les mois qui suivent, le quatrième dimanche du mois, nous allons annoncer une rencontre informelle qui n'est pas dans le calendrier, parce que on va l'annoncer d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous, on sera peut-être pas là, mais on demande à des membres du club, enfin quand je dis nous, c'est le bureau, hein, à d'autres membres du club d'être présents. Et ces rencontres informelles se font à Terre de Guême, hein, au Cromwell Bar.
Au Cromwell Bar. Ouais.
Et donc à ce moment-là, par exemple, le week-end, le quatrième week-end du mois de mai, on sera à Dijon. Donc on ne peut pas être des deux côtés. C'est ça le problème souvent, c'est que quand on dit des rencontres informelles, c'est comme, oui, c'est comme la rencontre des vieux clous, hein, c'est pas toujours facile d'y aller. Hein.
Bien sûr.
L'année dernière, moi je voulais y aller, j'ai même pas réussi à y aller une fois dans,
ouais,
le...
Bon, écoute, c'est pas très grave, hein, vous êtes pas là, finalement, le fait de lancer déjà l'idée de se rencontrer
tout à fait
le dimanche, c'est déjà quelque chose de bien.
Oui, et puis ça... Ça change entre Bolzel et puis ouais, Terre de Guême, ça fait connaître des endroits. Non, autrement, théoriquement, alors ça on n'a pas d'infos là-dessus, mais il y a toujours la journée des belles mécaniques de Bolzel fin août. Donc ça, théoriquement, on y est.
D'accord.
Quelle que soit notre participation, on peut y être en tant qu'acteur et on peut y être autrement en tant que participant comme les autres. Quoi.
Ouais. C'est le but de se rencontrer, de se voir, et puis de passer une bonne journée ensemble.
Tout à fait. Voilà.
Est-ce qu'on a presque tout dit sur est-ce que vous avez prévu quand même, durant cette année, une grosse fête quand même pour fêter l'anniversaire du Caïman quand même?
Bah, c'est-à-dire que...
un petit concert par exemple, un petit groupe.
Non, on n'est pas.
Vintage. Comme le club est vintage.
non, ça c'est pas. C'est pas dans les cartons.
Même pas.
Voilà. Non, il y en a qui sont rodés à ça, mais nous.
Non.
Non. Bon, par contre, tu peux noter quand même que ça fait quand même, je dirais une paire, parce que ça fait deux ans que nous assistons au lancement du calendrier.
Oui, bien sûr. Et on vous remercie forcément. Oui, on vous remercie fortement pour cette participation.
C'est la première fois que j'y participais. L'année dernière, j'étais pas là et donc on a envoyé notre vice-président. Cette année, c'était vraiment la première fois que j'y participais en tant qu'acteur et oui, j'étais très très bien.
Eh ben écoute, nous on est satisfaits vraiment que toi tu sois aussi satisfait. Voilà. Très bien, bah, Louis, voilà. Bah, écoute, voilà, on a tout dit sur cet anniversaire du Caïman.
Ah ouais, je pense. On va clôturer là-dessus. Je pense qu'on ne va pas parler des nouvelles motos du président, c'est pas la peine.
Ah non, parce que là on en a encore pour deux heures. Voilà. Eh bien merci pour cette interview, Louis-Guy.
Ben, je te remercie.
Et à bientôt, on va se rencontrer sur les événements moto durant cette année. Là, parce que là on est encore au début mars ici. Hein, la saison ne fait que commencer.
On se verra à Dijon aussi.
À Dijon, bien sûr. Allez, ciao.
Ciao. Them red, white, and blue, living hard, living proof. For some right or wrong, oh, the list goes on and on. All I seen, still don't know what I see on this road. Father climb, father fall, out of the light, higher the wall, out of is the wide your call. Memories and regrets, love is lost and not loved yet. Sons of thunder, God's war, I'm still looking for.
Challenge Moto Show à Wascal. Aujourd'hui, nous avons Antonio qui propose de découvrir le nord du Portugal. Antonio, bonjour.
Bonjour les amis. La plus belle région du Portugal, le Minho.
Le Minho, alors...
Tu pourrais dire du monde même, hein, pendant que tu y es. Parce que vous avez le plus beau coucher de soleil du monde, ça je me souviens.
C'est possible. Mais pour ceux qui l'ont vu... Ils s'en remettent pas. D'ailleurs, ils ne sont toujours pas couchés.
Bravo. Bon, dis-nous un petit peu comment ça se passe, une formule découverte donc, du nord du Portugal.
À moto.
Forcément
à
moto.
Le nord du Portugal est le cœur historique de la fondation du Portugal. Le roi Dom Afonso Henriques, qui est dans le logo de Motominho, chassa tous les envahisseurs et créa le Portugal. C'est de l'histoire. Hein.
Aller visiter le nord du Portugal.
Et donc, beaucoup de gens ignorent cette région-là, parce qu'on va souvent dans le sud, et le nord est une région verdoyante, avec de la bonne chair, du bon vin, pour ceux qui aiment le vin, de la bière, moins bonne, mais bon, de la bière quand même, et des paysages
touristiques.
Touristiques, mais plutôt pas l'international, plutôt un tourisme local.
D'accord. Donc, comment ça marche? Tu proposes des formules une semaine aux motards qui voudraient éventuellement aller visiter cette région?
Tout à fait. Donc, je m'occupe de tout. Ils prennent leur billet d'avion, destination Porto. Je viens les chercher à l'aéroport avec un petit bus ou une voiture particulière, tout dépend du groupe. Ils sont déposés à l'hôtel à Caminha, qui est une commune du nord Portugal. Et là, on travaille en Marguerite. Donc, ils restent 7 jours à l'hôtel. Et tous les jours, on fait une balade découverte de 150, maximum 200 km.
Donc tu leur proposes des motos alors à la location,
oui.
C'est ça ?
J'ai 7 motos, c'est pas de la location pure, puisque c'est toujours de la balade accompagnée. Donc je suis toujours présent pour les guider, pour leur faire découvrir des points qui ne sont pas forcément dans les guides.
Et voilà. C'est quoi comme moto ?
Ce sont des Mach 400, des Mach 500, mais 400 cm3.
Des monocylindres, c'est ça ?
Des monos, oui. Des monos faciles à piloter, qui sont adaptés aux routes locales, sinueuses.
Et on peut prendre un passager, on peut monter à dessus.
Oui, les motos sont équipées avec une biplace, une salle biplace, avec des sacoches pour mettre son appareil photo, son KOE éventuellement.
Et donc tous les matins, on part de l'hôtel, on va faire une balade et puis on revient le soir, c'est ça?
Voilà, on part le matin, 9h30, 10h. On fait une balade, il y a un déjeuner à chaque fois compris, puisque les tours sont en pension complète, hein, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir. Et on vadrouille, donc il ne faut pas s'occuper de restaurant, tout est réglé d'avance.
Si on décide de venir visiter le nord du Portugal avec toi,
oui.
On ne se coupe de rien en fait. On fait le chèque, c'est tout. Hein.
Voilà.
On te paye et puis toi, tu fais tout le reste.
Tout est compris dans la balade, voilà. Le séjour, la navette aller-retour à
l'aéroport.
L'hébergement avec un hôtel, avec une piscine. Un beau jardin, tous les repas, les boissons à table et l'essence des motos, avec l'assurance.
En plus, l'essence des motos.
Donc, c'est un truc tout compris. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour ceux qui viennent.
Mais je peux venir avec ma moto si je veux.
Bien sûr, j'accepte bien sûr les motos. D'ailleurs, moi, j'ai que 8 motos à disposition, enfin même 7 motos parce que j'en conduis une, j'en pilote une. Donc, il y a 7 motos. 7 motos biplace, ça fait maximum 14 personnes. Mais... on peut venir avec sa propre moto. Il y a des gens qui sont venus avec leur moto. J'ai un groupe en préparation qui vont venir avec leur moto de Watt.
D'accord. Qu'est-ce qu'on visite dans le nord du Portugal?
Alors, le nord du Portugal, comme c'est le cœur historique, il y a la ville de Guimarães, qui fut la première capitale du pays, qui donna naissance au roi. D'ailleurs, on l'appelle la ville berceau. C'est le berceau de la nation portugaise. Guimarães, Braga, qui est la deuxième ville du Portugal. C'est le cœur religieux, pour ceux qui s'intéressent à la religion. De la région catholique. Il y a Valence, qui est une ville fortifiée, pas très... Valence au Portugal, qui n'a rien à voir avec Valence espagnole.
Non, espagnole. Hein.
Voilà. Oui. Il y a des paysages, il y a des vignes, les vignes vertes, la région du vin, et la mer, la côte, qui est magnifique.
Et le fleuve, le Minho.
Le fleuve Minho, le fleuve...
Ce qui fait la frontière entre l'Espagne et le Portugal.
Voilà.
Hein.
Le fleuve Minho, on fait toute la vallée. Le Lima, qui est aussi une ville importante aussi, c'est Viana do Castelo, avec la visite d'un bateau hôpital, qui fait la pêche, qui s'occupait de venir en aide.
Il y a toute une histoire avec les pêcheurs portugais. Hein,
voilà, tout ça sera expliqué
là-bas. À la pêche à la morue, je crois, c'est ça?
Tout à fait, ils partaient dans le Grand Nord,
Nord.
Labrador, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon,
ouais,
par là, pour ceux qui connaissent, dans toute cette région-là. Il partait plusieurs
fois.
Il
y avait régulièrement des blessés, des gens qui étaient, et qu'il fallait soigner. Donc il y avait ce bateau hôpital qu'on peut visiter.
Voilà. Ouais. Et ce bateau hôpital était un petit peu. C'était pas encore l'ère de l'hélicoptère. Donc quand les gars étaient blessés, c'était compliqué de leur venir en aide.
On les emmenait sur ce bateau.
Voilà.
Et donc ça, c'est une visite.
C'est une visite, voilà. Comprise dans le forfait.
Hein. Voilà, voilà.
Mais une belle visite en général qui plaît à beaucoup de monde. Parce qu'il y a un peu de tout sur le bateau. Il y avait bien sûr la partie hôpital, mais aussi la partie cuisine, tout ce qu'on faisait, hébergement, il y a tout.
Voilà, est-ce qu'on peut adapter le voyage? Parce que on suppose qu'il ne fait pas très beau. On se dit, tiens, aujourd'hui, au lieu de faire telle visite, on en fait une autre.
Bien sûr. En général,
on peut modifier le parcours.
Tout à fait. Ouais. Ça arrive qu'on fait un peu plus de visites intramuros que de coucher de soleil. C'est déjà arrivé. Mais en général, il fait beau. Hein. Il pleut rarement pendant 24 heures.
Chaque journée se termine toujours par le
coucher de soleil.
Le coucher de soleil, hein.
Normalement, oui.
Parce que nous, on l'a fait cette balade.
Je me souviens. C'était un bon groupe. Exceptionnel.
On a aussi les soirs, on va voir le coucher de soleil.
En principe,
c'est toujours pareil. Hein.
Souvent le matin, on part par le bord de mer pour dire bonjour à la mer. Bonjour, et le soir, on vient lui dire au revoir avant d'aller se coucher. Parce qu'on est quand même toute la semaine, on est au bord de mer, même si on fait beaucoup d'intérieur du pays. Hein, mais c'est au bord de mer.
Et moi, je me souviens qu'on a découvert la gastronomie locale aussi. Hein.
Oui, bon, faut avoir faim en général. Hein, mais c'est une cuisine de terroir. Hein.
Ouais. Qu'est-ce qu'on mange alors la morue.
Ouais, la morue, pas tant que ça. Hein. On mange la morue, bien sûr, mais c'est pas le plat où on mange le plus souvent. Beaucoup de viande de cochon, de porc, le porc, à toutes les sauces. Hein. Mais il y a du bœuf aussi. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas, qui sont un peu végétariens, ils peuvent manger des salades.
Il y a aussi du chou aussi.
Du chou, beaucoup de chou. Ouais.
Ouais. Et donc tout ça c'est compris dans le forfait. Hein.
Tout ça est compris dans le forfait. Il n'y a pas de mauvaise surprise.
On a réservé la semaine.
Vous êtes pris en charge. Totalement.
À la limite, on y va sans carte bleue, sans chéquier, sans
tout
rien du
fait.
Tout.
C'est vrai.
On est logé, nourri.
Ouais, pas blanchi, pas encore. Non. Ça va peut-être.
Voilà. Et puis les boissons, c'est quoi la boisson préférée, enfin des Portugais, au moins du Niño.
Le Portugal est un pays de vin, mais il y a des très très bons
vins. Le Porto, non?
Bien sûr, le Porto, oui, mais bon, qui n'est pas un vin spécialement bu par les Portugais. Hein. C'est un vin qui a été élaboré pour les Anglais. Hein, donc les Portugais du cru boivent très peu de Porto. Ouais, c'est pas un vin. Ils voient plutôt les vins locaux, le vin vert.
Qui
s'appelle vin vert, qui n'a rien à voir avec la couleur.
Vino verde, c'est ça?
Oui, vino verde, il y a du vin vert. Vino verde rouge et blanc. Bon, le rouge, faut avoir l'estomac bien accroché.
Ah bon? Pourquoi?
Parce que j'aime pas moi personnellement. Je devrais pas le dire. Par contre, le vin vert se boit comme du Perrier.
Il est légèrement pétillant, c'est ça?
Oui, un petit peu pétillant. Pas très alcoolisé, parce que c'est un vin qui a... 9-10 degrés, donc c'est pas un vin dans le sens qui flingue, quoi. Ça passe bien.
Alors, quel est le meilleur moment pour aller visiter le nord du Portugal?
Disons à partir du mois d'avril, mais le bon mois, vraiment presque sûr météo, c'est juin, septembre aussi, quoi. Je ne fais pas de juillet et août. Hein, donc c'est,
Avril, mai, juin.
Oui, cette année en mai, comme je pars au Tourist Trophy à l'île de Man, donc j'ai déjà...
Tu ne seras pas libre.
Moyennement libre. Moyennement. Il y a le mois de mai, il faudra que je regarde le calendrier. Ouais. Mais le mieux tout, c'est de regarder sur le calendrier Kikinku à la page...
35.
À la page 35, il y a le téléphone, il y a le contact, donc c'est plus simple.
Voilà. On peut voir les photos un peu de ce que tu proposes, comme visite et comme balade.
Bien sûr.
Voilà, là-bas au Portugal.
Avec des photos de l'hôtel, il est magnifique l'hôtel.
Franchement, super beau. Avec une belle piscine.
Faut être honnête, la piscine n'est pas très chauffée. En juillet, août, c'est bon, mais je ne peux pas.
Donc, avril, mai, juin pour visiter le nord du Portugal. Mais après, juillet, août, il fait chaud?
Je fais chaud.
Il y a trop de monde.
Bon, les prix sont un peu plus élevés, donc je ne fais pas de juillet, août. Mais septembre, c'est une très bonne période.
Et après septembre?
Oui, c'est une très bonne saison.
Voire septembre, octobre peut-être, non?
Cette année, je finis la première semaine d'octobre.
D'accord.
Donc, j'ai déjà du monde pour j'ai dernière semaine de septembre, j'ai quatre coupes. Donc, il y a encore 3 motos de libre.
Bon, alors voilà. On rappelle tes coordonnées éventuellement, donc il y a un site internet.
Oui, motominhoportugal.com. Motominho, c'est MINHO, motominhoportugal.com. Et puis il y a le téléphone, je peux le donner à l'antenne, je pense. Hein,
bien sûr.
Le 06 09 65 69 53.
De toute façon, il est dans le calendrier.
Oui, voilà. Un très beau calendrier, excellent. Que je donne à tout le monde. Tous les gens qui écoutent l'émission ont le calendrier, j'espère.
Et si tu fais le VRP pour terminer cette interview,
oui.
Tu dis bah oui, venez,
venez
visiter notre.
Hein, vous êtes les bienvenus.
Parce qu'on n'a pas dit, c'est que tes parents sont originaires du Portugal.
Oui, oui, je suis né au Portugal. Hein, donc, bien que
tu es né au Portugal.
Je suis né au Portugal, je suis de nationalité portugaise, bien que j'ai fait toute ma scolarité en France. Je suis venu à l'âge de 7 ans.
Et tes parents sont venus ici après en France ici.
Mes parents sont venus
pour travailler.
Ici et malheureusement pour eux, mais ils sont toujours ici. Ils sont au cimetière de Tourcoing, c'est la vie. Hein. Ils sont pas retournés au pays comme beaucoup. Ils sont restés en terre de France.
Par contre, toi, tu es amoureux du Portugal de cette région du Minho.
C'est un beau pays. Ouais. Bon, je connais beaucoup de pays à travers la planète, mais c'est un très beau pays. Hein. Bon, la France aussi, hein, mais c'est surtout le Minho qui n'est pas très 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 vendu dans les agences touristiques. Ouais. On vous envoie à Algarve, on visite Porto, on visite Lisbonne, mais le nord-nord de Portugal est un petit peu délaissé.
Du coup, il est encore un peu sauvage, finalement,
c'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas de tourisme de masse international. Hein. Il y a un tourisme local, hein, comme on va en tourisme à Bredune ou au Touquet. Mais c'est local. On vient pas. Il n'y a pas des bus qui arrivent du sud de la France. Et au nord du Portugal, c'est pas
Bredune, oui.
Comme c'est quand même une région assez peuplée, donc les gens, les locaux, visitent la côte portugaise. Quoi,
il m'a semblé quand même qu'il y avait une petite animosité entre les Portugais et les Espagnols, quand même.
Oui,
t'as fait ressentir ça quand on est venu avec toi visiter le nord du Portugal.
Non, c'est une légende.
Non,
mais
c'est une légende.
Un petit ressenti.
Nous, les Portugais, on n'a rien contre les Espagnols. Malheureusement, les Espagnols veulent à tout prix s'accaparer le Portugal.
Ah oui.
Non, ils n'ont jamais admis depuis l'indépendance. Ils pensent toujours que le Portugal est une de leurs terres. Quoi. Encore aujourd'hui, beaucoup. Hein, mais bon, c'est de l'histoire ancienne. C'est les meilleurs... le tourisme portugais marche à 90% avec les Espagnols. Hein. Dans la région nord, la majorité des touristes sont des Espagnols. Hein.
Tu nous as précisé quand même que les fleuves prenaient leur source en Espagne. Hein.
Tous les fleuves portugais, fleuves naissent en Espagne.
Ouais.
Toutes leurs sources, oui. Si les Espagnols
veulent se
venger,
ce serait facile d'assoiffer les Portugais.
Tout à fait.
Ils seraient obligés de se rabattre sur le vin.
Donne-leur pas de mauvaises idées quand même.
Il reste toujours du vin, du vin vert.
Ça, c'est l'histoire du Portugal et du nord du Portugal aussi.
Disons que j'explique si tu veux.
Moi, j'ai bien retenu ma leçon.
Localement, on visait des tas de forts qui étaient là à l'époque pour empêcher l'envahisseur.
Ouais.
Et l'envahisseur, c'était l'espagnol. Hein. Ça, c'était à l'époque. Donc, aujourd'hui, les Portugais ont toujours un petit. Ils n'ont pas confiance aux Espagnols.
Ah non.
ils viennent peut-être.
Pour les gens qui viennent avec toi, qui viennent donc une semaine avec toi, tu leur fais un peu d'histoire quand même pour leur expliquer.
C'est le but, hein, c'est de
l'envahisseur, l'Espagne.
Ouais, disons que je leur explique un petit peu comment que ça s'est passé, comment le Portugal s'est créé.
Oui.
Parce qu'on est au cœur justement de la nation portugaise. Hein, en visitant la ville de Guimarães et. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais que j'aurais encore pu vous faire voir. Hein, le champ de bataille, là où ça se crée, bon, ça intéresse que les historiens. Quoi. Non, mais c'est très, très enrichissant.
Très bien, Antonio. Je ne sais pas,
Luc,
une dernière question.
Ouais, j'ai vu que tu avais un planning déjà bien chargé. Donc, s'il y avait des auditeurs qui étaient intéressés, qui t'appellent rapidement, parce que forcément... il reste quelques places, donc allez-y, n'hésitez pas.
Au mois de mai, il y a la dernière semaine de la Pentecôte, quoi. À la Pentecôte, c'est-à-dire ça se termine le samedi 25 mai. Parce qu'après, je rentre, je m'en vais à l'île de Man au Tourist Trophy. Et après, il y a le mois de juin, il y a encore une semaine au mois de juin aussi. Du samedi 22 au samedi 29 juin. Et après septembre.
Voilà, ça marche bien, mine de rien. Et donc, on retrouve tes coordonnées à la page 35 du calendrier où on a ton site internet, moto.
Minho.
Minho. Portugal.com. Minho.
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 Ouais. C'est mignon.
C'est mignon. Hein. Et on a également ton numéro de téléphone à la page 35. Il suffit de te contacter.
Super, c'est super sympa là.
Et ben voilà, Antonio.
Voilà. À bientôt.
Merci pour cette interview.
Merci,
et à bientôt.
Merci, les amis.
Don't you tell nobody. you feel inside? And don't you let nobody know what's on your mind. You just keep on smiling like they told you to. Never mind the storm that's building up inside.
Toujours au Vintage Moto Show aujourd'hui, donc dimanche 3 mars. Et je suis en compagnie de Denis, Denis Bourguel, alors dit Norton. Bonjour Denis.
Salut la Miche, bonjour à tous.
Alors pourquoi Norton? Parce que tu es un passionné de cette marque emblématique, mythique, marque de moto anglaise,
ah
Norton.
Oui, c'est the best in the world.
Hein, t'as toujours roulé en Norton?
Presque, oui.
C'est-à-dire?
Bon, parce que ma première moto, c'était une Triumph 750.
Oh, ça reste toujours un petit peu dans l'esprit, dans le milieu.
Voilà. Mais bon, j'ai commencé à rouler en 82. En 83, j'avais acheté le Commando. Et après, je ne l'ai plus lâché.
La Commando, oui. Voilà. Ça, c'est une valeur assez mythique, ça, cette moto.
Oui. Une valeur sûre.
Voilà. Valeur sûre. Voilà, Denis, toi tu suis l'actu de cette marque Norton. Il y a quelques années, elle est réapparue sur le marché là, avec un bicylindre moderne.
Oui, tout à fait.
Mais il y a eu des soucis.
Donc moi, personnellement, j'y suis allé deux fois à l'usine pour en acheter une. À l'usine, donc, elle se trouvait à Donington. Et à chaque fois, des problèmes pour pouvoir rouler. Et puis, jusqu'au...
C'était quand, ça? Il y a 10-15 ans
Oui, il y a 15 ans.
Au moins 15 ans. Hein.
Ouais. Et donc, toujours des problèmes. Donc, on va attendre.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait, comment on peut appeler ça, le directeur, le manager a détourné les fonds
Donc, alors, c'est Stuart Gartner.
Explique-nous, hein, parce que toi, tu connais bien l'histoire.
Donc, c'est Stuart Gartner. En fait, il a bouffé le pognon des retraités. Donc, là-bas en Angleterre, je ne sais pas, ils doivent payer des choses pour les retraités. Donc, en fait, il est parti que le pognon. Donc, il a fait un peu de prison.
Il a fait de la prison, oui.
Et donc, après, la marque a été rachetée par TVS, une usine indienne.
Alors, là, c'est récent.
Là, c'est récent. Bon, ça fait deux petites années, je crois, maintenant.
Quoi. Oui, ça, c'est récent. C'est vrai que quand on compare Triumph et Norton, quand on voit quand on voit Triumph, c'est vrai, c'est un...
C'est une marque mythique aussi.
C'est mythique, mais c'est une renaissance, hein, avec toute une gamme. Hein.
Toute une gamme, et là, ça, c'est vrai que c'est...
Et c'est curieux que Norton, aussi, quand même, qui a un passé aussi... légendaire quand même.
Oui, tout à fait.
N'arrive pas. Il n'y a pas de constructeur qui actuellement, pourrait faire revivre cette marque.
Là, actuellement, TVS, ils mettent le paquet. Hein, donc, maintenant, ils ont mis une toute nouvelle usine à Birmingham, à Solihull. Et toute nouvelle, on dirait un hôpital d'abord à l'intérieur, quoi, tellement que c'est magnifique. C'est blanc, c'est parquet. Enfin bon, c'est vraiment une belle usine, très belle usine. Et donc, j'espère que normalement, d'ici quelques mois, ils vont remettre le paquet pour que ce soit commercialisé. Et d'après ce qu'on m'a dit, la marque Norton devrait revenir en France parce qu'à cause des normes...
À l'époque, il y avait le souci des normes. Hein.
Voilà. Donc,
Euro 4, Euro 5.
Voilà, ouais. Hein. Donc alors, ils sont toujours en retard d'un tour, les Anglais.
Ouais, ouais.
Et normalement, à partir de juin...
Pas surtout, tu m'as expliqué.
Non. Ouais. Mais donc, normalement, à partir de juin, juillet, elle devrait réapparaître en France. Quoi. Donc, ça serait vraiment...
Ouais, et puis, il leur faut un réseau aussi pour distribuer les machines et la maintenance, la réparation aussi.
Ouais. J'espère qu'ils vont mettre le
paquet. C'est compliqué aussi, ça, Denis.
Oui. Parce que au début, qu'ils avaient mis ça en vente en France, quoi, il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait que Paradise Motors là, à Paris. Là.
Oui, mais
il n'y avait qu'un commerce.
C'est limité, hein ?
Très, très limité.
Ici, à Lille, tu veux acheter une Norton, il faut aller à Paris acheter une Norton.
Possible.
Non, si, c'est possible, mais il faut vraiment le vouloir et aimer.
Mais puis surtout, le problème, c'est parce que ces motos-là, elles avaient énormément de problèmes.
Oui.
Ça tombait tout le temps en panne. Enfin bon, encore pire que les anciennes. Quoi. Donc, Pire que les anciennes.
Déjà, les anciennes, elles avaient des soucis. donc là, on a l'espoir. Maintenant, ça a été racheté par un groupe indien.
Voilà, ouais.
Hein,
un
constructeur de voitures, de camions.
De motos.
Et de motos aussi. Ouais, motos, ouais. Voilà. Hein. Parce qu'on sait que les constructeurs indiens, ils font...
ils mettent le paquet, quoi.
Ils mettent le paquet,
Ils mettent le pognon, enfin, ils mettent tout ce qu'il faut pour que ça tourne. Quoi.
Et alors, ce serait quoi? Ce serait sur ce modèle-là, le bicylindre?
Alors, donc, il y aurait donc, il y a deux modèles de 961 Commando, donc les bicylindres. Donc, il y aurait le modèle Café Racer et il y aurait le modèle Route, modèle CF, quoi. Et ensuite, il y aurait les deux modèles de V4. Donc il y a le V4.
Alors le V4, il faut que tu nous expliques, hein, parce que les auditeurs, ils connaissent pas. Ouais. Le V4, c'est quoi
Donc alors, ils ont sorti un modèle à base d'Aprilia. Donc c'est un V4 de base d'Aprilia.
C'est pas un moteur développé par
Non. Ils ont mis des carters, tout ça. Quoi. Oui. C'est comme les nouvelles BSA, en fait. C'est un moteur Rotax, à l'origine. Quoi.
Oui.
Pareil, quoi. Ils ont fait pareil.
Voilà.
Donc, c'est des motos qui sont 50 000 boules quand même, quoi.
D'accord.
Bon.
Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Les V4 sont belles, mais les commandos,
non, mais toi,
les commandos sont magnifiques.
Je sais que t'es vraiment... T'es un férou de cette marque, donc tu veux absolument racheter une nouvelle Norton. Ouais. T'as été déçu par les premières, il y a quelques années. Là. T'avais fait l'essai et tu t'es rendu compte que c'était pas au point.
Une catastrophe.
Donc maintenant, constructeur indien, et donc on peut se dire que finalement, ce sera bien...
C'est en bonne voie.
Ce sera un bon produit, quand même, oui.
Parce qu'en fait, ils ont listé tous les problèmes qu'ils avaient la première construction, on va dire. Quoi. Donc, ils ont résolu tous les problèmes. Donc, je ne sais plus, il doit y avoir plus de 200 défauts. Quoi. Et donc, maintenant, ça marche vraiment bien. Quoi. Les nouvelles commandos, c'est vraiment super.
Et comme c'est un produit indien, éventuellement, c'est un prix abordable.
Alors, ça a beaucoup baissé, parce que les premières étaient quand même...
Oui, c'est ce que tu m'as dit. C'était...
Elles étaient à 24 000 euros.
24 000 euros.
C'est énorme. Ouais. Il fallait attendre 2 ans, des fois, pour avoir une moto, quoi. Donc, enfin, et là, maintenant, ça tourne autour de 17 000, 18 000, les nouvelles. Bon, livre en Angleterre.
Oui.
Donc, ça fait 20 000 euros, quoi, on va dire. Quoi.
Donc, il faut attendre que ce soit homologué en Europe.
Voilà.
Parce qu'il y a cette fameuse...
Norme.
Norme Euro 4, non, Euro 5, ouais. Maintenant. Hein, voilà.
Donc,
Et aussi, parle-nous un petit peu du club Norton aussi, en Europe. Hein.
Ah, oui, oui.
Je sais que tu fais beaucoup de balades en Europe.
Oui. L'année passée, j'ai fait l'international en Suède. C'était un magnifique rallye, quoi, super bien organisé. C'était vraiment génial. Quoi. Donc là, je suis parti avec ma commando, la grosse pémère. Puis bon, j'ai fait 2800 km sur 6 jours, tranquille.
2000 km sur 6 jours.
2800.
2800, oui. Bon, ça va.
Ouais, bon, je crois plus.
Donc tu dis que c'est des gens qui savent recevoir.
Ah, et oui, oui,
comment ça marche? Vous avez un site internet? Comment,
oui.
Vous avez des points de chute? Voilà.
Donc moi je fais partie du club Norton.
Pour dormir le soir, voilà.
Ah oui, oui. Donc moi je fais partie du club international. Donc Norton Arms Club Organization. Et je fais partie du club France aussi, du Norton France, bien sûr, normal. Donc après, bien sûr, pour faire tous ces rallyes, il faut toujours faire un pré-booking. Il faut contacter le club, regarder sur le site internet, réserver sur internet pour voir les réservations. Ça marche comme ça. Donc, c'est un gros
club. Et tu es hébergé, hein. Tu es hébergé par les membres du club dans chaque pays?
Ah bah oui, après, il y a beaucoup. Enfin, moi, après, bien sûr, en force de rouler, je connais beaucoup de gens, quoi, donc je peux être hébergé un peu partout, quoi. Mais sinon, là-bas, c'était une superbe organisation. Et là-bas, en Suède, il y a beaucoup de cabines. C'est des cabines où on peut dormir avec le nécessaire, des toilettes, tout ça. Quoi. Donc,
les cabines dans des campings ou...
Des campings,
ah,
ouais,
oui,
ouais.
Oui, d'accord.
C'est des cabines.
Oui.
Et donc, comme des mobil-homes, on va dire. Quoi.
D'accord.
Et donc, c'était génial. Super.
C'était au mois
d'août. C'était au mois d'août, ouais.
Donc, ouais, c'est mieux.
J'ai pas une goutte d'eau.
Oui.
Franchement, c'était même trop chaud, même, on va dire.
Non, parce qu'en hiver, c'est plus difficile.
Ah là, ouais, il faut mettre des chaînes. Et donc, ici, cette année, c'est en Espagne. Donc, c'est à côté de Barcelone, au mois de juin. 40 degrés à l'ombre. Bon,
ouais.
On va voir.
Ah bah, écoute, tu verras bien, Denis. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, là, toutes les Norton sont admises, les modernes et les...
Ah oui,
éventuellement,
oui,
les machines qui vont sortir là,
oui,
en 2024.
Bien sûr, ouais. Il y avait des nouvelles commandos. Il y avait une V4. Enfin, parce que...
Oui, les V4 aussi, oui.
Elle roule là-bas en Suède, on va dire. Quoi,
V4, hein.
Donc, c'est différent d'ici. Quoi. Mais sinon, ouais, ça... Ouais, ça tourne, toutes les Norton sont acceptées, bien sûr.
D'accord, mais je rappelle que tu as fait il y a quelques années, hein, il y a longtemps, hein, un super voyage au Canada.
Magnifique.
Amérique du Nord. Hein,
Amérique du Nord.
Jusqu'à l'Alaska. Hein,
et le Mexique.
Hein, le Mexique aussi, t'es redescendu sur le Mexique, tout ça.
C'était une catastrophe.
Ta moto a pris feu. Hein,
la moto a pris feu.
Dans le Dakota du Nord ou du Sud, je ne sais plus.
Wyoming.
Dans Wyoming. Ouais,
puis,
voilà,
mais après, il y a un ours qui m'a reporté.
T'étais poursuivi par un ours. Je me souviens de cette histoire.
C'était fou.
Comment ça se fait que l'ours t'a poursuivi?
Bah écoute, j'ai voulu le prendre en photo. Oh, un ours. Ouais.
T'aurais dû lui demander avant.
Ouais, je demandais un autographe. Puis bon, heureusement que la moto...
Non, c'est parce que l'histoire, c'est qu'en fait, toutes les voitures s'arrêtent quand il y a un ours, voilà, pour le laisser passer, en fait,
ouais,
c'est ça.
Puis bon, le photographe...
Alors en voiture, c'est bien, parce que tu peux toujours fermer les portes, et puis voilà. Sauf que toi, quand t'es en moto, c'est pas la même chose.
Non, je me suis agaré peut-être à 100 mètres de l'ours.
Et puis... et tu l'as vu qu'il s'est...
Il s'est retourné vers moi.
Ah ouais, je vais croquer un petit Denis, voilà. Voilà, non, c'était un super voyage aussi.
Ouais, magnifique.
Voilà, magnifique.
35 000 km que j'ai fait.
35 000 bornes, et toujours en Norton. Hein.
Toujours, ouais. Puis là, maintenant, elle a 400 000.
400 000 bornes, comme quoi, finalement, ces motos, ça marche, hein, quand même.
Hein. Ah ouais.
Et sans avoir de shifter, sans avoir de contacteur à la béquille.
Non, pas.
T'es pas embêté avec tous ces problèmes-là.
Non,
hein. Des radars, tu sais, maintenant, on met les radars sur les motos. Hein.
Ah oui, d'accord.
Des radars pour stopper, parce que les motos et les voitures qui sont en devant, tout ça, ou derrière.
Bon, ok.
C'est des sources de d'ennui.
Après, on risque de s'endormir après avec tout ça.
Bon, très bien, Denis. Okay, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter un peu là, à l'interview?
Bah écoutez, roule en Norton.
Ouais.
Sinon, c'est monotone.
Voilà, c'est ça, très bien. Merci, Denis.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
too late to crow for day. I am the little red rooster, too late to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farm yard since my little red rooster's been gone.
Magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h, c'est sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Steve Perlinski, 37 ans, sa passion c'est la vitesse, la piste, les départs. Voilà, c'est fini.
Ouais, c'est fini tout ça. Enfin, c'est fini, fini pour Steve. Un moment.
Parce que là, tu prends une autre voie maintenant.
Ouais, un nouveau départ après.
Un nouveau départ en fait.
Passer 20 ans à faire un peu les mêmes choses sur plusieurs circuits, sur plusieurs motos, de différentes façons.
Dans plusieurs pays.
Dans plusieurs pays. J'avais envie d'un nouveau challenge et j'ai entendu parler de cet événement, de cette aventure.
Oui. On t'a branché aussi un peu quand même.
On m'a branché un peu. Ah, on
c'est l'heure d'une soirée peut-être, une discussion.
Voilà, c'est ça. C'est parti.
Un repas au soir.
Parti d'une connerie.
Oui, une connerie d'habitude. Oui, c'est toujours comme ça. Tout
et puis là, l'inscription est lancée. Là,
mais tu m'as dit que vous étiez plusieurs et maintenant tu te retrouves tout seul.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Alors, bah, c'est des lâches, les autres.
C'est des lâches, après, c'est un peu financier. Hein.
Oui, ouais. C'est financier. Ouais, tu m'as dit que ça coûtait très cher, l'inscription. Ouais, oui, quand même. Ouais. Bon, alors, Steve, bah, écoute, apparemment, tu n'es pas né sur tes jambes, mais sur deux roues.
Oui.
À cause de qui, ça?
C'est à cause du papa, toujours.
À cause
hein.
de Bruno.
Mais oui, oui. Hein
Bruno.
Oui, mais c'est ça. Hein. Et puis, on avait la chance d'avoir un super circuit.
Oui, le Zen, ça nous aidait bien
Zen,
aussi.
Donc,
oui,
ouais. Tous les, on était souvent là-bas et puis il y avait une petite 350 Ducat.
Alors voilà, à 12 ans, tu fais tes premiers tours de roue avec une 3,5 Ducat.
Ouais.
À Lezen.
Un petit Desmo, ouais. Terrible, pas de frein.
Ouais. Ouais, pas de puissance, ouais. Idéal pour apprendre les trajectoires.
Donc t'es pas là pour freiner.
Ben non.
Si, quand même, sur le, c'est pas comme sur le lac Salé. Voilà, à 14 ans, hein, le goût de la course, il le devra plus tard à sa mobilette.
Ouais.
Il y a une histoire de mobilette aussi à 14 ans.
Première course avec la mobilette.
Ouais. Championnat continental Vario.
Oui, sur les circuits de karting, là c'était aussi une sacrée expérience.
Ah oui, c'était à Douvrin.
Oui, on faisait un peu tous les circuits. Ouais. Il y avait
à Lezen aussi, il y avait à Lezen aussi. Ouais.
Donc c'était super sympa.
Mais t'avais des soucis, ça marchait pas bien, la carburait pas terrible.
Ouais, on avait du mal à se battre devant avec On était en mobylette.
Déjà, ils voulaient se battre devant.
Nous, on était en mobylette, les autres étaient en Peugeot. Ouais.
Oui. Ah oui.
Alors bon, la mobylette, c'était un petit peu dépassé déjà à l'époque.
Oui, c'est pour aller chercher
pain.
C'est le pain, quoi, tu vois, ou alors le truc du travailleur, quoi, au matin, pour aller au boulot,
la baguette,
quoi.
Voilà.
18 ans, tu démarres plusieurs années de course sur un circuit officiel. Archimée, Gédine, Ostende.
Ouais, on a fait pas mal de trucs un peu variés, du coup.
On a commencé avec le Boulder Classique.
Et trois fois le Boulder Classique. Hein.
Avec des Norton.
Et ça a été le Boulder Classique. Parce que nous aussi, on l'a fait avec un coup, deux fois.
On l'a toujours fini.
Mais nous, on n'a jamais réussi à finir.
Ouais. Toujours classé dans les 20, quoi. Mais on n'avait pas déjà.
Oui, je me souviens.
On était avec une Norton, on va dire, le moteur quasiment stock.
Oui.
Et c'était déjà l'époque où il commençait à y avoir beaucoup de japonaises, genre.
Ouais, Codier Genoux.
Des 1000 GS et compagnie.
Mais alors, il y a dire aussi, hein, Boulder Classique, il y a des machines qui sont plus vraiment classiques. Mmh. Aussi classiques que ça, je veux dire.
Ouais, des Guzzi.
Quand on regarde bien, c'est pas des machines de l'époque. Hein.
Malgré tout, c'était une super expérience avec le fiston et puis l'équipe, quoi. Parce qu'on est, pour faire l'endurance, c'est une équipe et l'ambiance terrible, quoi. Super.
Sacré
souvenir.
Ouais. Ouais. Alors deuxième Hachimé sur Salah Norton et une victoire au Mans, victoire en side aussi.
Ouais, on a commencé, on va dire les vrais championnats. On a toujours commencé à faire un peu de course en ville. Jusqu'à 18 ans. Après, on s'est lancé un peu en championnat de France avec une première année où on finit vice-champion de France avec la Norton en 2012. On remet ça du coup en 2013 où là, on remporte le titre, on va dire, avec la Norton. L'année d'après, pour encore une fois un nouveau challenge.
En VMA classique.
J'ai décidé de tenter l'aventure en sidecar avec mon copain Charles Willow.
2014, l'année
en 2014.
Sidecar. Alors ça c'est pareil, en passager ou
en
pilote?
En fait j'avais fait déjà, on va dire, 6-7 années de passager sur un BMW, donc sur les courses en Belgique. Et j'ai eu décidé de prendre le mien, de piloter.
Ouais.
Et ça s'est super bien passé, on a gagné presque toutes les courses qu'on a finies. On est des petits ennuis mécaniques, on a fait ça pendant un an.
On a eu des problèmes d'embrayage la dernière course, sinon tu gagnais le championnat. Hein.
Voilà, du coup malheureusement on finit 3e, mais c'est le jeu. J'ai décidé de revenir quand même un peu en solo, mais un niveau au-dessus, pour un nouveau challenge. Donc on a décidé de partir en Angleterre, faire le championnat CRMC, avec un niveau beaucoup plus relevé.
Alors là, c'est relevé en Angleterre avec les pilotes anglais.
On a beaucoup appris. Là,
et les tridents.
Les tridents, oui.
Le Twin Norton, normalement, c'est toujours les tridents qui gagnent. Hein. Normalement.
Ouais. Voilà, donc pour des jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une trident, Bruno.
Ah bah c'est donc,
nous on sait ce que c'est qu'une trident.
Triomphe des années 70.
Il faut préciser quand même, pour les auditeurs qui nous écoutent.
Et donc c'était le moteur le plus facile à préparer et le plus facile à avoir.
Mais aussi
beaucoup de puissance
un peu
avec,
fragile aussi, non, peut-être.
Ouais, plus fragile, non. Bah, en Angleterre, ils ont réussi à les fiabiliser, puis des bonnes parties cycles, des Rob Norse, des Pequettes. Et donc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de Norton qui était dans les places, dans les bonnes places. Hein.
Ça sort, on va dire, 80 chevaux à la roue en général.
Pour la trident. Dis donc, il faut la sortir.
Avec les 60 chevaux, 70 max, c'était un peu...
C'était limite.
Ouais.
Mais t'as fait quand même 3e, je pense.
On a fini 3e, on a bien bataillé, on a réussi à finir 3e du championnat. Ce qui nous a valu à la fin de l'année.
Ça c'est le championnat d'Angleterre en 2016, c'est ça?
2016. Ouais.
En 2015.
Du coup, on a retenté l'aventure en 2016 et on a eu la chance d'avoir une moto à prêter. Donc, c'est monsieur Dave Nourish qui nous a prêté une 750.
Alors, Nourish, c'est pareil, il faut expliquer un peu aux auditeurs.
C'est un twin, c'est toujours
un twin avec une partie cycle.
Avec par contre une culasse 8 soupapes.
Ah, culasse 8 soupapes,
soupapes. Et là, Steve a gagné le championnat. Et en plus, course.
Et là,
tu étais
je vois sur ton site que tu étais pilote usine, Nourish.
Ah, c'était.
Je vois pilote usine.
On est arrivé, il faisait chauffer la moto, monter dessus au dernier moment.
Et t'avais le Roi Lagueur qui était là aussi sur la ligne de départ.
On décidait de pas grand chose, il gardait la moto, monter dessus. Et c'est vrai que ça a très bien marché.
Ouais.
Très, très gros moteur.
Ouais.
Donc c'était chouette. On a eu un peu moins de chance avec la 500 sur l'aspect mécanique.
Ouais.
Donc c'est un peu le regret, mais c'est un sport mécanique, ça fait partie du jeu.
Ouais. Alors 2017, un championnat de France, un rêve de gosse.
Encore un nouveau challenge.
Encore un challenge.
Comme il y a des nouvelles anciennes, il y a des nouvelles catégories qui sont apparues.
Oui, parce que les nouvelles de il y a 20 ans, maintenant elles sont vieilles. Et donc,
voilà, donc ouais. On avait le droit que des motos jusqu'à 95. Donc moi, c'est les motos.
C'est l'époque de la CBR.
C'est l'époque de la CBR.
Oh là, là, on rentre dans un.
Affiché en poster dans ma chambre. Ouais. C'est vrai que bon, maintenant, c'est des motos qui coûtaient 1000 balles.
Oui.
Donc j'étais en chercher une en Belgique.
1000 balles. Pourquoi en Belgique?
J'aurais dû en prendre deux.
On n'est pas cher.
C'est pas cher en Belgique.
Non, c'est pas cher.
Ils sont en Belgique, c'est parce que nous, si tu payes en espèces, éventuellement, tu peux encore aussi avoir.
Les motos étaient prises.
Ah oui, voilà. C'est la législation qui avait frappé. Voilà. Donc
C'est à cause du bridage.
On était oui, il y avait les 100 chevaux.
Oui. Bah oui. Voilà.
Il y avait les 100 chevaux, oui, d'accord.
Bah, en Belgique, on était à 130, donc on était en Belgique.
Alors, c'est BR, hein, la moto la plus puissante sur la route.
Ouais, quand elle est sortie, elle a fait un tabac en 92.
Ouais. Alors, comment ça s'est passé avec cette BR?
Ça a marché aussi. C'était un bon du premier coup.
Ouais, tu vas participer au championnat français VMO Open.
Parce que c'était, on va dire, pour moi, c'était une moto moderne. J'avais jamais conduit une moto aussi puissante.
Avec 120 chevaux à la roue.
Avec 120 chevaux à la roue.
Ah, ça a changé de 60.
Il fallait aussi apprendre parce que c'est beaucoup moins maniable.
Ouais.
Donc il y a des chevaux, mais c'est moins maniable. Par contre, l'apprentissage, c'est une Honda, c'était super vite. C'est aussi une très bonne moto pour aller chercher le pain.
Oui.
Ouais. Du coup, c'est
un
pas la
voilà, gros pain, alors.
Un peu la pite, un peu la pite quand même.
Ouais. Bon, on a gagné vraiment à la régularité. Donc, c'est une moto qui a toujours fonctionné.
Et
assez facile.
Et tu vas gagner le championnat.
Et je vais gagner le championnat la première année.
La première
2017.
Année. Ouais, chapeau. Ouais.
Donc, c'était une belle aventure aussi.
Voilà. Alors, après 2021, vice-champion de France.
Bah, en fait,
tu refais un championnat avec la CBR.
On a refait des petites courses à droite, à gauche. On avait eu une Matchless G50. Donc, on avait voulu se lancer en 500 pour repartir en Angleterre. Donc, on a fait des petites courses avec en France pour voir ce qu'elle valait. Elle était super et suffisante pour la France. Malheureusement, je pense qu'elle manquait un peu de chevaux pour l'Angleterre.
Ouais.
Donc, on a décidé de ne pas y aller. Et puis après, bon,
il y a eu l'histoire Covid.
Qui ont mis une grosse claque au sport moto.
Ouais. Oui.
Parce que c'est beaucoup de déplacements et c'était assez difficile à bouger. Donc, on n'a rien fait. Et c'est reparti, je pense, en 2020. Pour rire, hein, parce qu'il y avait, c'était encore des championnats. Il y avait trois courses sur l'année, donc ce n'était pas des vrais championnats. Hein.
Et donc tout ça c'est quand même aussi un budget hein, pour se déplacer sur les circuits, préparer la moto.
Papa est là.
Papa est là. Oui, effectivement, il est là.
Ouais, c'est vrai.
Moi j'ai une question parce que tout ça c'est des courses. C'est bien de les avoir gagnées, hein, bien sûr. Mais pourquoi tu t'es jamais inscrit dans un championnat par un moto 3, tu vois
j'ai fait
en Espagne.
J'ai fait les courses que j'avais.
Parce qu'on n'avait pas les motos.
Hein non, mais
les motos, puis c'est le
budget
aussi.
Ouais, c'est ça, c'est le budget aussi. Hein.
Ouais. Non, mais tu peux aussi chercher
des sponsors. C'est quand même moins cher que courir en moderne.
Je sais pas, tu.
Après, chez les sensations, on a
imagine
vraiment
que
la chance.
Tu serais en moto GP maintenant.
Non, beaucoup trop vieux.
Non, mais si tu avais commencé il y a 20 ans.
Non.
Hein
non.
Non,
non.
Tu serais le Marc Marquez ou l'ancien Valentino Rossi, nouveau Valentino Rossi plutôt, de moto GP.
Non, non, ça reste une passion.
Tu regrettes pas ça ?
Non, rien du tout.
Non ?
Rien du tout.
Pourquoi
Puis père, il aimait bien les vieilles motos. Alors,
ouais, c'est bon, ça. Donc, t'as fait plaisir.
On roulait avec les motos qu'on a. Hein.
Voilà. Voilà. Donc là, on a parcouru 20 ans d'histoire. 20 ans d'histoire. Ouais. Voilà. Et là, t'as décidé de changer de discipline.
Ouais,
alors là, les slicks, c'est fini. Tu vas plus tourner en rond.
On en beauté l'année dernière.
Oui, oui.
On s'est quand même inscrit l'année dernière. Avant de finir, j'ai voulu refaire une belle saison complète. Et du coup, pour finir en beauté, je m'étais inscrit dans deux catégories.
Ah, le Superbike avec ta CBR.
En Superbike avec ma CBR. Et en Vintage, du coup, avec un moteur de XT dans un cadre stylé.
Ah oui, ce moteur, oui, d'accord.
Et du coup, ça a super marché aussi, parce qu'on a gagné
les deux championnats.
Voilà.
Et le père a gagné le championnat en 900 classique, avec toujours la Norton, bien sûr.
Ouais.
On a fait tous les déplacements ensemble.
Tu as gagné, Bruno.
Pardon ?
C'est toi, le père.
Ah, le père, c'est moi.
D'accord, tu as gagné
une sacrée saison.
Bon, super. C'est la famille Perlinski, donc champion.
Ça a bien marché.
Et voilà. Donc là, on va passer à un morceau de musique et après, tu vas nous expliquer comment ça se fait que tu as décidé de partir maintenant.
Changement
de direction. Dans le sable, dans le tout-terrain. Hein, et puis tu vas nous expliquer que c'est pas facile parce qu'il y a la vitesse, il faut aller vite, mais aussi la navigation.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Tu parles dans des rallyes du style Dakar. Hein,
il va falloir tout apprendre.
Le Tunisie, la Grèce et tout ça.
L'endurance.
Et là, mais c'est plus des slicks que tu mets, c'est des pneus. Tétine.
Voilà, et ça je connais pas.
Eh ben bon courage.
Il va falloir.
Allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. Bon Steve, pour toi, on l'a dit, hein, la moto c'est avant tout la piste, la course, l'adrénaline des départs.
Oui. Ça,
là tu sens que ça, tu te dis, comment ça va se passer quoi, t'es un peu les...
Oui.
Alors c'est pas une peur, c'est l'adrénaline.
C'est une angoisse.
C'est une angoisse.
C'est une angoisse.
Ouais. Mais c'est une, non, c'est une bonne
stress,
angoisse, beaucoup de stress.
Du stress,
du
bon stress. Du bon stress,
ouais, c'est ça, exactement.
Mais c'est une adrénaline et c'est une drogue.
Ouais, voilà, ouais, c'est un peu une drogue, effectivement. Et c'est, alors, mais c'est aussi tout le reste, la mécanique, les rallyes, les balades. Et tu ajoutes aussi l'esprit et le rock'n'roll.
Oui, tout à fait.
Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes en rock'n'roll?
Ça, c'est classique, c'est classique 21. Ça, c'est classique 21.
Hein. Ah, c'est classique 21.
Ah, bien sûr.
Ah, c'est une bonne radio. Hein.
On a été élevé sur
mais il
ne
parle pas de moto.
Magique, hein,
il ne parle pas de moto.
Oh, quand
Steve.
Même.
Oh, il n'y a rien du tout. Et arrête. Et c'est bon, quoi. Hein, on dit. Toi, tu n'écoutes pas, toi. C'est...
Classique 21
ouais, classique 21
tout
aussi. Bon, allez, 2025, direction le sable.
Ouais, pourquoi le sable? En fait, ce qui s'est passé entre temps aussi, c'est que j'ai eu un enfant.
Ah oui, j'ai vu ça aussi. Aïe. Alors, t'es voilà. Grand-père, Bruno, alors.
Ouais.
Papy.
C'est okay, c'est tout. C'est tout, oui.
Ah bah oui, oui.
C'est tout ce que t'as à dire.
On va voir s'il va rouler en moto après, quoi, parce qu'on a un stock de deux roues à la maison.
Ah oui, je me doute bien que vous
avez.
Ah,
je pense que ça a l'air la même dur, chose.
Hein. Bah. Oui, bah, ça, c'est sûr et certain, oui. Ah, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, alors, oui,
alors,
bah,
comme j'ai eu Samuel, bah, si tu veux, quand tu fais des saisons de championnat, ça te prend un peu toute l'année, si tu veux. Et même entre les courses, en fait, t'es pas présent à la maison parce que ton esprit est ailleurs. Donc, l'idée, c'était vraiment, au lieu de faire 10 courses sur l'année de championnat, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire une seule grosse course dans l'année? Au moins, je pars qu'une fois dans l'année. Donc, l'idée, elle est partie de ça, faire juste une petite aventure entre copains, retrouver les copains et faire une belle aventure par an. Et du coup, à force d'en parler avec les copains, on se renseigne de ce qui existe et puis on découvre que le vrai Paris-Dakar existe encore. Donc, ça part d'une connerie. On se dit, pourquoi pas dans 5-10 ans, faire un truc comme ça, se préparer pour
dans
y 5, aller.
Dans
5-10 ans. Dans 5-10 ans.
Ah oui, mais non, mais dans 5-10 ans, non.
Et puis, en en parlant, en fait, beaucoup de monde ont souhaité se joindre à l'aventure. Et puis, ça a avancé un peu les choses. Du coup, comme on a eu, on va dire, beaucoup de sponsoring, beaucoup de gens étaient prêts à rejoindre l'aventure. Du coup, on a avancé le truc à l'année prochaine.
En 2025.
Ah. Donc, le seul problème, c'est que j'ai toujours jamais touché une moto à
oui,
crampons,
oui,
on va dire.
Hein. C'est un problème, ça.
C'est un problème.
Alors, le truc, en fait, le truc.
C'est un gros problème, Steve.
Le truc, c'est que tu rapproches, tu passes de 10 ans à 1 an, mais il n'y a pas la préparation.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ah. Oui,
c'est
donc,
ça,
tu vas devoir condenser.
Ouais, là, c'est voilà. Bon, on va devoir un peu se dépêcher.
Et dépêche-toi, parce que là, quand
ouais. Ah non, c'est.
Alors, je vais te dire que moi, j'ai fait deux fois, ça fait le vintage enduro opale.
Ouais.
Effectivement, moi non plus, j'avais jamais fait de. Alors, en plus, dans le sable. Alors là, il faut être un peu.
Ouais, il faut être un peu.
La conduite dans le sable, c'est.
Alors là, c'est pas du tout évident. Alors là, bon, écoute.
Ouais, bah, j'ai déjà pris une petite cinquantaine de gamelles. Hein, cette sortie, ouais, c'est. Je pense que le passage est plus facile dans l'autre sens.
Ah, moi, je pense aussi.
Là, vraiment, c'est vraiment dur de se rendre compte de rouler sans
adhérence.
De
l'off-road à
fait,
la piste, c'est, je pense que c'est plus facile.
Oui. Et il y a déjà un choix de machine ou pas?
Parce
que comme tu étais toujours dans le classique.
Ouais. Ah oui,
je sais pas.
Oui, tu étais resté un peu aussi.
Ouais. Est-ce que papa préparait une Norton?
Non, ça serait une BS1, un B50, mais je pense qu'on n'arriverait pas.
Je sais pas s'ils aiment le sable.
La première étape en Tunisie. Ouais.
Ça va pas le faire, ça. Alors, ouais. C'est quoi la moto?
Alors, la moto, ce sera des KTM. Donc, il y a une moto d'entraînement et une moto pour le Paris-Dakar, on va dire. Donc, pourquoi KTM? C'est vraiment la moto qui est le plus utilisée. Et sur chaque rallye, on va dire, il y a toutes les pièces à disposition, les fabricants. Donc, il faut être fou pour choisir autre chose.
Ouais. C'est un KTM quoi ?
Donc, celle d'entraînement, c'est une KTM 450 enduro classique. Et celle pour le rallye, donc c'est une 450 Rallye Factory Replica. Donc, c'est une vraie, on va dire, c'est presque une vraie d'usine. C'est un compé client préparé pour les pilotes amateurs, mais qui est déjà prête pour le Dakar. Donc, elle a déjà trois réservoirs, elle a 25 litres, elle a plusieurs pompes à essence. Tout est équipé,
plusieurs robinets d'essence, tout ça, tu veux dire.
Tout à fait, ouais, plusieurs circuits d'essence.
Déjà, ça, il faut déjà
se familiariser avec le
fonctionnement de la moto. Enfin,
exactement. Ouais. Et donc là, je vais l'essayer demain, je vais faire un petit rallye avec de 300 bornes pour l'essayer, puis pour refaire un peu de navigation.
Surtout.
D'accord, alors c'est l'Africa Ecoras, hein, donc c'est
l'ancien Paris-Dakar.
Paris-Dakar, hein.
Oui.
Et parce qu'il y en a deux, hein, il y a celui qui passant en Arabie Saoudite.
C'est ça.
Donc celui-là, c'est apparemment c'est le vintage en fait.
C'est pas le vintage.
Non, mais c'est non, mais je veux dire dans l'esprit.
Dans l'esprit
quand
vintage,
on lit un peu ce que les organisateurs veulent faire, c'est dans l'esprit de Thierry Sabine.
Oui, c'est ça. C'est Jean-Louis Schlesser qui a repris ça. Et donc c'est vraiment dans l'esprit d'époque. Oui. Et c'est vraiment là, 6000 km de sable. Donc on retraverse tous les vrais pays. Alors,
le départ est donné de Monaco.
Et le départ est donné de Monaco maintenant. Ouais. C'est Monaco-Dakar.
Ça va coûter cher déjà pour l'hôtel. Tu dois arriver deux jours avant. Ils auraient pu faire ça ailleurs quand même.
C'est marketing.
C'est du marketing. Mais oui. Et 15 jours plus tard, tu arrives à Dakar, hein, sur ce fameux lac. Rose.
Exactement. Avec une dernière course, donc pour l'arrivée, c'est une dernière course sur la plage.
Sur la plage.
Mythique. Mythique. Donc on espère arriver jusque là. Et on va tout faire pour.
Je l'ai souvenu en France.
Alors cinq pays traversés. C'est plus de 6000 km dans le sable.
Hein. Oui.
6000 km dans le sable. Eh ben bonjour.
merci.
Moi je peux te dire même une soirée bien arrosée. Je tape jamais dans la main. 6000 km dans le sable, jamais. Ouais. Parce que même là, j'ai encore mon esprit.
C'est parce que je savais pas ce que c'était à l'époque.
Ah, mais ben. Ouais. Parce que là, bonjour, hein, bah écoute, voilà. Alors, bien sûr, tu vas pas faire ça. Enfin, là, il te reste encore. Parce que c'est quand c'est en
donc
début janvier.
Moins d'un an, c'est maintenant. C'est les deux début premières janvier, semaines de janvier.
Tu vas faire le rallye de Tunisie.
Voilà, donc là, je vais faire ce rallye avec une assistance. Donc, c'est France Roadbook qui me fera l'assistance. Donc, ça va être super en tant que novice d'être assisté pour la préparation de la moto. Et du coup, avec France Roadbook, je vais participer à un petit stage de formation dans les dunes en Tunisie. Donc dans deux semaines, où on va apprendre.
C'est une formation.
C'est une formation. Donc c'est vraiment apprendre déjà comment on monte une dune, comment on l'aborde.
Il faut apprendre à monter une dune.
Et du coup après la navigation.
Le problème, c'est quand t'es en haut, il faut la redescendre.
Oui. Exactement. Mais sur les deux roues. La redescendre, ça va toujours.
Sur les deux roues. Oui, parce que
pas la tête la première.
Si tu la tête. Les roues en l'air, la tête dans le sable, ça. Ouais. C'est qu'il y a un problème.
Voilà. Exactement. Donc on va découvrir ça et du coup poursuivre cette aventure parce que c'est un gros challenge. Le but, en fait, c'est vraiment de partager ça avec tout le monde et c'est pour ça que j'ouvre à ce compte une chaîne YouTube pour justement que les personnes puissent comprendre comment on arrive jusque là et quelles sont les étapes pour y arriver. Donc tout ce que je fais depuis le début pendant cette année tout sera en vidéo sur YouTube.
Super. J'ai vu ça
et c'est super sympa. L'idée c'est vraiment de retransmettre les étapes et pour un amateur qui voudrait y aller, comment on y
va. Parce que quand même, c'est un haut challenge. Hein, parce que
c'est un beau challenge.
Que tu t'es mis là.
Ouais. Je pensais pas si haut, mais bon, maintenant que je suis lancé. c'est le deuxième rallye le plus dur au monde, du coup, après le Dakar.
Ouais.
Surtout, c'est par rapport à la longueur. En fait, c'est la longueur qui est dure.
Et puis, il faut le physique.
Il faut le physique.
C'est ça, l'endurance. Ouais.
Tenir, un grand sportif,
tenir sur la distance.
Il va falloir s'y mettre.
Alors, Tunisie, ça, c'est une formation. Après, le rallye de Grèce.
C'est une formation. Après, je me suis inscrit au rallye de Grèce. Donc, c'est le Hellas Rallye, fin mai, toujours avec assistance. Là, le but, il est vraiment de se mettre dans l'esprit rallye. toujours pour la navigation.
Ouais,
c'est vraiment le but.
Oui, alors on va venir après. Hein. Bon, il faut le faux physique, il faut savoir piloter dans le sable,
exactement.
La technique, mais aussi cette fameuse navigation. Hein.
Exactement.
Parce que ça se gagne là aussi le rallye.
Et surtout.
Mais par contre, attends, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la moto, c'est une passion parce que j'ai entendu, moi, que effectivement, tu passais au rallye en disant j'aurais un peu plus de temps pour Samuel.
Oui,
et là, j'entends toute la préparation, etc.
Oui, je pense
tu lui expliqueras. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a la passion, c'est la moto, et à un moment, ça dévore.
Ouais, ça dérape toujours un moment.
Je pense que c'est un souci. Là. Donc voilà.
Alors
Tunisie, Grèce, et après tu m'as dit
un vrai petit rallye africain. Là, ça sera sûrement dans le but d'essayer la vraie moto avec laquelle je roulerai.
Oui.
Donc c'est un petit rallye costaud, hein, mais de 2000 km. Ça fait un tiers du Dakar, quoi. Donc ça nous donnera une vraie idée.
Bah nous on va te suivre à la radio, on
vous
donnera des informations régulièrement, voilà quoi.
Ouais.
C'est incroyable ça. Voilà. Et donc cette fameuse navigation, tu vois un peu comment ça fonctionne. Il faut faire le matin, tu sais pas qui fait ton tracé ou comment ça marche.
Ça serait facile. Ça serait plus simple.
Ça merde en ce moment. Ouais, là, s'il fait passer par des petites routes,
la courroie, c'est un bouchon.
Hein? Non, mais comment ça marche?
Je t'en dirai plus dans deux semaines. Je suis un peu à la rue. Non. Ça, je suis pas
assez prématuré calé, cette émission. Ouais. Ouais, ouais, pour toi, c'est déjà, tu connais pas encore trop. Tu vas avoir quoi, un trippy, un espèce
non,
de
non,
truc
non,
comme
c'est,
ça
c'est là, vraiment là, un roadbook comme à l'ancienne papier.
Ah, c'est
que...
le papier.
Ah oui.
Donc il y a une chance sur deux que maintenant.
Ah bah c'est vrai, bah, tu vois, c'est vintage. Tu vois, c'est le truc vintage, oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, où t'as un bouton peut-être sur la cocotte pour faire défiler ton.
Pour faire défiler mon roadbook.
Non, il y a encore plus vieux, il y a la molette. Mais là, il faut quitter le guidon, faut enlever la molette.
Bien équipé.
Il faut tourner la, il faut tourner la molette. Voilà, donc
le paquet qui se déchire, tu dois t'arrêter pour te recoller.
Oh, non, 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 un rouleau de scotch.
Ouais. Ah oui, c'est parce que ça arrive, que le papier se déchire, ça bloque. Ouais. Ça bloque. Ah oui, bah donc là, il va falloir que tu te.
Il y a beaucoup de choses à
faire. S'entraîner avec ce truc-là.
Donc avec les moyens d'époque et une boussole.
La mousse sur les arbres.
Comment est-ce que tu as déjà
les étoiles
positives. Et t'as pris des notions d'astronomie pour éventuellement voir si t'es perdu. Ouais. L'étoile polaire, ça c'est le nord.
Ah bah ouais.
Il y a le portable.
Oui, tu t'es renseigné un petit peu au niveau de la sécurité du rallye. Comment ça se passe? Parce que j'ai vu qu'il y avait des hélicos aussi quand même.
Oui, on est suivi par des hélicos. De toute façon, ça reste un gros rallye médiatisé, donc il y a vraiment toute la sécurité qui nous suit. Et avec la technologie actuelle, même si on a des moyens presque archaïques pour se diriger, on est suivi au mètre près. Donc à tout moment, la direction sait où on se trouve. Et on est même averti, si jamais une voiture arrive derrière plus vite que nous, on a des buzzers qui sonnent pour pouvoir se décaler.
Il faut pas qu'il y ait tempête de sable. Ah, si c'est une tempête de sable...
Ouais. C'est autre chose.
Ça complique un peu la tâche.
Voilà. Voilà, on va parler de ce qui fâche, le prix. Combien c'est la Scription?
L'Africain en elle-même, bon, c'est
le papa fait une grimace. Je sais pas pourquoi.
Oui, alors vous voyez, c'est pas très radiophonique, mais papa fait une grimace. Et une vilaine grimace. Parce qu'il y a les grimaces rigolotes. Et t'as les grimaces.
Là, on sent que non.
Pas du tout rigolote.
Elle est beaucoup plus dure.
Alors
bon, l'inscription est que de 12 000 euros. Alors pourquoi que de 12 000 euros?
Parce que tu mineur, toi.
Je mineur. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui tournent autour que quand on se renseigne, on est plus sur un budget de 50 à 100 000 euros.
Non.
Pardon. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'ai besoin absolument de.
Tu as besoin de sponsors, j'ai bien compris.
Donc là, maintenant, l'inscription est lancée et elle est validée. Donc j'ai été reçu, je suis bien inscrit pour 2025.
Ah là, ça y est.
Il ne reste plus qu'à trouver l'argent. Bon, j'ai déjà des personnes qui se joignent à l'aventure.
Oui, mais bon, malgré tout, bon, je fais confiance au fiston là pour trouver des sponsors. Et il en a déjà trouvé quelques-uns.
C'est bien.
Ouais. Et alors, c'est bien engagé.
Ouais. Quand tu dis entre 50 et 100 000 euros, c'est avec les inscriptions dans les rallyes de Tunisie, Grèce,
tout
ça.
Ça, tout rentre dedans. Et puis, il y a plusieurs manières de le faire. Oui. Donc, c'est des rallyes qu'on peut faire sous différentes formes. Donc, on peut le faire en catégorie mal moto, comme on appelle. Mm-hmm. Donc, avec notre bite et notre couteau, on arrive comme ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir, grâce au sponsor, le faire avec une assistance. C'est ça qui augmente principalement le prix. Et donc après, on joint toutes les assistances. Après, il y a le choix de la moto qui rentre en compte. Donc la moto que je vais avoir la chance d'avoir n'est pas donnée non plus.
C'est toi qui l'achètes ou on te la prête?
En fait, c'est pour l'instant un investissement. Oui. Les sponsors, c'est une moto qu'on peut acheter que pour ça, la revendre après. On ne perd pas notre argent.
D'accord. Voilà. Alors tu sais que, heureusement que tu t'es inscrit, parce que je suis sur le site l'Afrique Eco-Rail, ils disent qu'ils vont limiter le nombre d'inscriptions pour l'année, en 2025.
Oui, c'est une course qu'elle vend en poupe, surtout à l'époque où le vintage revient. Cette course, ça reste une des courses les plus mythiques qui dépasse le monde de la moto.
Alors, ils disent qu'il y a une essence de la discipline, les valeurs humaines, convivialité, l'authenticité, solidarité et sportivité aussi dans ce rallye.
Exactement, parce
et puis
que
une espèce de ils font attention aux pays traversés pour éviter.
Ouais, c'est bien encadré.
Bon, après, tu nous diras si c'est vrai, parce que c'est marqué sur le site, mais bon.
Ouais, non, j'ai vu des images qui prouvent que c'est à certains endroits, c'est très bien encadré.
Ramassé quand le lendemain, quand le paddock est parti, quand il n'y a plus personne. Tous les papiers sont ramassés, enfin bref, ça faut voir. Voilà. Bon écoute,
je vous raconterai ça.
Ok, Steve, là,
c'est une belle aventure.
6 000 bornes dans le sable.
Ouais.
Ah non, je reviens pas.
Donc le but, c'est bien sûr juste d'arriver au bout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais de niveau. Ou il est impossible d'arriver avec un niveau dans le sable comme un pilote de motocross que je n'aurai jamais en un an. Donc le but, il est vraiment de tenir la distance. Ouais. C'est déjà une belle épreuve.
Et finir.
Et de se concentrer sur la navigation. Le but est vraiment de finir. Et la vitesse, on fera le maximum, mais on le fait pas pour jouer devant.
Très bien, écoute, si tu veux rajouter quelque chose,
On
peut aller voir un peu.
N'hésitez pas,
sur ton site.
C'est vraiment le site internet.
On fait Steve Perlinski.
Steve Perlinski, vous tapez Steve Perlinski sur Google. De toute façon, vous allez tomber tout de suite dessus. Mais surtout, il faut vraiment vous abonner à la chaîne YouTube. C'est ça qui me donne du crédit pour trouver des nouveaux sponsors. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça vous coûte rien, un clic. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire.
Par contre,
YouTube.
tu vas pas être devant. Ça, tu vas réussir. Tu vas en fait, moi, la question, c'est de dire, t'as fait de la course pendant très longtemps, et tu dis, est-ce que tu vas savoir rester justement une place comme ça, sans dire, il faut que j'y aille.
Bah ça, mentalement, c'est très dur.
Mais
à
de toute façon, c'est aussi un entraînement, je crois.
Ouais.
Moi, je pense qu'il pourra dire, il pourra toujours dire, ouais, j'ai envie d'être devant, mais tu sais, quand t'es dans le sable,
c'est
pas pareil que quand t'es sur
une piste. C'est vrai.
Mais j'essaye de m'en convaincre que c'est pas le principal, mais c'est vrai que c'est dur de pas penser à rouler devant.
Bah oui.
Mais aussi, on peut te retrouver. Petit article sur toi là, page 11 du calendrier, chers auditrices, auditeurs, si vous avez le calendrier des motoclubs, vous allez page 11 et puis là on voit objectif Dakar, voilà, Steve Perlinski. Et c'est toi qui sur les photos ?
Oui, tout à fait, c'est ma première photo dans le sable, ma première sortie à Loon Plage.
Ah déjà c'est pas mal, t'as du style.
Ouais, c'est pas mal, tout est neuf, ça brille encore.
Bon bah on verra l'année prochaine, au retour.
On verra, ouais.
Voilà, l'émission se termine. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, 11h, sur la plus libre des radios. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une excellente semaine. Bye.